RCN 90.7 FM présente. Ce n'est que de l'amour. Animé par Daniel Conrad et Julien Gély.
Bonsoir, je suis Daniel Conrad, vous êtes sur RCN, Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM sur les ondes et en écoute direct sur internet à l'adresse www.rcn-radio.org.
Bonsoir, je suis Julien Gély, vous écoutez la radio des différences, de toutes les différences. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, amour.rcn@gmail.com.
Et nous avons l'immense plaisir de vous retrouver toutes et tous pour une deuxième saison de Ce n'est que de l'amour, une heure mensuelle destinée au grand public pour faire évoluer les mentalités sur les questions de l'égalité des droits entre hétéros, lesbiennes, gays, bi et trans. Ce n'est que de l'amour, c'est l'émission qui se prend au mot.
Vous allez retrouver notre fine équipe, celle que vous avez adorée la saison dernière, et à commencer par la flamboyante, séduisante et absente, Elidana.
Elle a aussi présenté un mot d'excuse au producteur que je suis, mais nous l'entendrons dans le micro-trottoir, c'est l'épice douce mais piquante de Ce n'est que de l'amour, Donia Bentrad.
Il est en retard, mais nous rejoindra pendant le direct en studio, c'est la caution intellectuelle du groupe, mais surtout le vice-président de RCN, Didier Rousset.
Notre paparazzi préféré, notre humble photographe studio de l'émission, dont vous pouvez voir les clichés sur Facebook, c'est notre bel Aurélien.
Nos talentueux réalisateurs, nos Starsky et Hutch des manettes en régie, Raphaël Porra pour le direct et Lucas Shindamo pour les montages.
Le 3 août dernier disparaissait à 98 ans Rudolf Brasda, chevalier de la Légion d'honneur, dernier triangle rose et rescapé connu de la déportation pour motif d'homosexualité dans les camps nazis. Nous avons décidé de lui rendre un hommage appuyé pour son courage et son témoignage. Julien et moi avons l'immense honneur d'avoir passé avec lui deux jours il y a quelques mois en novembre dernier.
Oui Daniel, nous avons partagé un moment d'histoire avec un grand H, mais aussi un sujet que peu de personnes connaissent, la déportation pour motif d'homosexualité dans les camps de concentration et d'extermination nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Nous allons donc rendre hommage à Rudolf, dont nous avons une interview inédite, mais nous allons aussi essayer de faire devoir de mémoire en vous expliquant ce qu'étaient les triangles roses et noirs, mais aussi en vous présentant l'association Les Oubliés de la Mémoire.
Pour cela, nous recevons aujourd'hui Thierry Rago, délégué régional Lorraine de cette association et adhérent d'Equinox Nancy-Lorraine.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir l'équipe.
Nous recevons aussi Jean-Luc Schwab, secrétaire général des Oubliés de la Mémoire et trésorier de la station Centre LGBTI de Strasbourg en Alsace, co-auteur avec Rudolf Brasda du livre Rudolf Brasda, itinéraire d'un triangle rose aux éditions Florent Massot.
Et aussi Michael Bertrand, historien et auteur de « La déportation pour motif d'homosexualité en France » aux éditions Mémoire Active.
Nous écouterons le groupe de rap La Nébuleuse avec leur chanson très forte et émouvante et à juste titre qui s'intitule « Triangle rose » que nous passerons en milieu d'émission.
Et pour débuter et voir que la question de la déportation pour motif d'homosexualité sous le Troisième Reich n'est pas connue, notre fine équipe de reporters Donia Bentrad, Elidana et Didier Rousset sont allés la semaine dernière promener leur micro à Nancy. Et quelle était leur question, Daniel ?
Eh bien Julien, elle était simple et j'ai voulu qu'elle soit simple. Question d'histoire, savez-vous ce qu'étaient les triangles roses ? On écoute le résultat.
Bonjour.
Bonjour,
quel est votre prénom ?
Margot.
Je vais vous poser une petite question d'histoire. Est-ce que vous connaissez les triangles roses ?
Non.
D'accord. Bah, je vous remercie, Margot. Est-ce que vous connaissez les triangles roses ?
Non, désolé.
D'accord, merci. Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles ?
Clément.
Alors, j'ai une petite question pour toi.
Oui.
C'est une petite question d'histoire. Est-ce que tu sais ce que c'est que les triangles roses ?
Non.
Non ? Et toi, comment tu t'appelles ?
Hugo.
Et toi, tu sais ce que c'est ?
Non plus.
Non plus ? Bah, je vous remercie. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Bonjour, quel est votre prénom ?
Bonjour, je m'appelle Justine.
Ok, alors une petite question d'histoire. Connaissez-vous le triangle rose ?
Non, désolée, non. Je ne connais pas.
C'est pas grave, merci beaucoup.
Bonjour.
Ça vous dit rien comme ça, non ?
Je m'appelle Zinc Chouchou.
Vous connaissez les triangles roses ?
Aucune connaissance.
Aucune connaissance ? Bah, y a pas de problème. Merci bien. Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles ?
William.
Alors William, une petite question d'histoire. Est-ce que tu connais les triangles roses ?
Non.
Non ? D'accord. Et toi, tu t'appelles comment ?
Anthony, non, je connais pas.
Tu connais pas ? Toi non plus ?
Non, je connais pas.
Ça vous dit rien du tout ? D'accord, bah merci.
Voilà, bonjour madame, quel est votre prénom ?
Régine.
Bonjour Régine. Eh bien, je vais vous poser une question d'histoire. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous savez ce que c'est que les triangles roses ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Les triangles roses ? Non.
Non. Eh bien, tant pis.
Bonjour, quel est votre prénom ?
Lucie.
Alors, Lucie, est-ce que vous connaissez les triangles roses ?
Absolument pas.
Absolument pas ?
Bonjour, quel est votre prénom ?
Je m'appelle Anaëlle.
Donc, une petite question d'histoire. Ouais. Qu'est-ce que pour vous les triangles roses ?
Et voilà, je passe pour une conne. Je sais pas ce que c'est.
C'est pas grave.
Ah non, c'est pendant la période de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout
c'est
à
les
fait.
Triangles que les juifs avaient. Non. Pas les juifs, les homosexuels, pardon.
Oh oui !
Et je suis trop forte.
Oh là. Tout à fait, merci beaucoup.
Bah, de rien.
Oui, bonjour, quel est votre prénom ?
Mounir El Aradi.
Donc, j'ai une question. Que sont pour vous les triangles roses ?
Les triangles roses, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'équivalent de l'étoile jaune qu'on mettait aux juifs. Je crois qu'il y avait le triangle rose, c'était pour les homosexuels.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Super, merci.
Il y avait les tziganes aussi qui étaient marqués. Il y avait les juifs, il y avait ce qui ne plaisait pas aux nazis.
D'accord, bah, je te remercie, Mouni. Voilà.
Quel est votre prénom ?
Catherine.
Bonjour Catherine.
Bonjour Didier.
Ah, elle connaît mon prénom en plus, hein. C'est
oui,
bien.
C'est
hein.
Marqué sur votre front.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, une question d'histoire. Est-ce que
200 000 euros.
Est-ce que vous savez ou est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les triangles roses ? Alors, je vous mets un peu sur le chemin. Je vous guide.
J'avoue
un petit
que je
peu.
Ne vois pas du
C'était
tout.
C'était dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale.
Mm-hmm. 39-45.
C'est la bonne réponse.
Voilà. Non, honnêtement, je...
Non.
J'ai un blanc, là.
Non. Eh ben, tant pis.
Je vais aller voir sur Internet.
Ah non, ouais, pas... Bah ben non, c'est plus du jeu,
bah
autrement.
Oui, bah oui. Bah, t'as rien.
Eh bien...
Alors, vous m'expliquez, quand même,
oui,
peut-être.
Oui, on va vous expliquer.
D'accord.
Et oui, nous allons vous expliquer, à vous, chères auditrices et auditeurs, ainsi que aux personnes que nous avons interviewées dans les rues de Nancy la semaine dernière. Et on s'aperçoit, Thierry, ça ne t'étonnera a priori pas que presque personne ne sait ce que sont les triangles roses.
Non, effectivement, il va falloir faire énormément un travail pédagogique envers l'ensemble de la population, aussi bien LGBT, mais aussi au niveau du grand public.
Alors, je vais lire une phrase. Partie d'un discours. Si j'admets qu'il y a 1 à 2 millions d'homosexuels, cela signifie que 7 à 8% ou 10% des hommes sont homosexuels. Et si la situation ne change pas, cela signifie que notre peuple sera anéanti par cette maladie contagieuse. À long terme, aucun peuple ne pourrait résister à une telle perturbation de sa vie et de son équilibre sexuel. Un peuple de race noble, qui a très peu d'enfants, possède un billet pour l'au-delà. Il n'aura plus aucune importance dans 50 ou 100 ans. Et dans 200 ans ou 500 ans, il sera mort. L'homosexualité fait échouer tout rendement, tout système fondé sur le rendement. Elle détruit l'État dans ses fondements. À cela s'ajoute le fait que l'homosexuel est un homme radicalement malade sur le plan psychique. Il est faible et se montre lâche dans tous les cas décisifs. Nous devons comprendre que si ce vice continue à se répandre en Allemagne, sans que nous puissions le combattre, ce sera la fin de l'Allemagne, la fin du monde germanique. Il faut abattre cette peste par la mort. Discours de Heinrich Himmler sur l'homosexualité, prononcé le 18 février 1937. Nous allons avoir justement quelqu'un qui a subi la tyrannie de Heinrich Himmler et de Adolf Hitler, c'est Rudolf Brasda. Alors Julien, qui était Rudolf Brasda ?
Rudolf Brasda, dernier déporté pour motif d'homosexualité connu, nous a quittés mercredi 3 août 2011 au petit matin à l'âge de 98 ans. Il a fait partie des derniers triangles roses, ces 10 000 hommes déportés pendant la Seconde Guerre mondiale du fait de leur homosexualité, qui était considéré comme un danger pour la perpétuation de la race par le régime nazi.
Alors quel est son itinéraire ou son chemin de vie, si j'ose dire ?
En 2010, Rudolf Brasda a co-signé le récit de sa vie, itinéraire d'un triangle rose aux éditions Florent Massot avec Jean-Luc Schwab. Il a 20 ans quand Adolf Hitler accède au pouvoir en 1933. Il vit alors sa sexualité sans se cacher. Cela lui vaut d'ailleurs d'être dénoncé une première fois en 1937 et condamné au titre du paragraphe 175 du code nazi qui criminalise les relations sexuelles entre hommes. En conséquence, il est expulsé en Tchécoslovaquie, qui est la terre de ses origines, mais il est rattrapé par l'histoire lorsque les nazis annexent les Sudètes. Il est alors une nouvelle fois condamné, mais quand sa peine arrive à échéance, à son terme en 1942, il est déporté dans le camp de concentration de Buchenwald. Pendant 3 ans, il portera le matricule 7952 et un petit triangle rose en signe de son homosexualité. Les 650 homosexuels déportés dans ce camp y subiront les humiliations, les violences et les mises à mort des SS, de sang-froid ou même par jeu. Rudolf Brasda écrit qu'il a eu un peu plus de chance que les autres parce qu'il était couvreur de métier. Il a ainsi pu être indispensable à un camp qui n'a cessé de s'agrandir. Après la guerre, il va s'installer en France où il rencontre son compagnon, Édouard, auprès de qui il vivra jusqu'au décès de celui-ci en 2003. Il mène une vie discrète et ne souhaite pas revenir sur ce passé douloureux jusqu'en 2008, alors qu'est annoncée l'inauguration d'un mémorial dédié aux victimes homosexuelles du nazisme à Berlin. Ses proches vont lui conseiller de se faire connaître. Commence alors le témoignage de son expérience que nous relayons aujourd'hui dans cette émission.
Nous avons eu la chance d'interviewer Rudolf Brasda et on écoute la première partie. Rudolf, pourquoi apportez-vous seulement maintenant ce témoignage ?
Also, mir ist etwas wirr im Kopf.
Bien, alors, lorsque Rudolf a été libéré du camp de concentration, il ne s'est pas posé plus de questions. Personne, par la suite, ne lui a rien demandé. Donc, il a simplement eu cette période de sa vie. Je compléterai la réponse en disant que, à partir des années 50, lorsqu'il fréquentait son ami Eddie,
habe ich nicht daran gedacht, irgendwie mich zu reflektieren.
Oui, donc à partir du moment où il fréquentait son ami Eddie, donc des années 50 jusqu'à son décès en 2003, le besoin de témoigner n'était pas vraiment là non plus. On en parlait éventuellement dans le cercle des amis proches, mais sans plus. Alors, l'autre partie de la réponse qui est venue là, c'est effectivement que donc il n'en voyait pas l'intérêt et aussi s'imaginait que personne ne s'y intéressait, jusqu'au moment où il a entendu parler de l'édification de ce mémorial aux victimes homosexuelles du nazisme à Berlin, à côté de celui des victimes de la Shoah. Donc, ce monument a été inauguré en mai 2008. Et comme Rudolf suit quand même assez les informations, enfin les actualités en Allemagne, ou les actualités allemandes, lorsqu'il a entendu parler de l'inauguration qui s'approchait, donc probablement au début de l'année 2008, il a demandé à une de ses nièces sur place de le faire connaître. Alors cette dame ne l'a pas fait en amont de l'inauguration, ni le jour même, mais un petit peu après. Donc c'est pour ça que... En juin 2008, donc des gens de Berlin qui avaient fait déjà des vérifications pour ça, pour effectivement s'assurer de qui il était, sont venus le visiter et lui ont proposé l'invitation à la Gay Pride de Berlin qui se passait donc un mois après l'inauguration du mémorial, c'est-à-dire le mémorial ayant été inauguré le 27 ou le 28 mai. La Gay Pride était donc le dernier samedi de juin 2008. Et c'est à cette occasion qu'il y a été convié, d'une part le matin pour une cérémonie au mémorial, et l'après-midi pour inaugurer la parade. Et c'est à partir de ce moment seulement que Rudolf sort de son anonymat.
L'homme que vous venez d'entendre et qui a aidé Rudolf Brasda à écrire ses mémoires, c'est Jean-Luc Schwab. Jean-Luc, tu es au téléphone avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien.
Nous avons aussi, donc Jean-Luc, tu es, je le répète, aussi secrétaire général de l'association Les Oubliés de la Mémoire. Tu es trésorier aussi de la station, le centre LGBTI de Strasbourg en Alsace. Et nous avons aussi en studio Thierry Rago, qui est lui délégué régional des Oubliés de la Mémoire. Thierry, on s'est dit bonjour.
Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir Thierry.
Et Didier Rousset nous a rejoint dans le studio, ça y est, il est arrivé. Et il pourra intervenir aussi en posant des questions. Première question, Thierry, est-ce que tu peux nous présenter l'association Les Oubliés de la Mémoire ?
Alors, c'est une association nationale qui a été reconnue par le ministère de la Défense. avec des délégations, plusieurs délégations qui sont situées donc entre autres en Lorraine, en Picardie, en Île-de-France, en Languedoc-Roussillon, dans la Loire, Midi-Pyrénées, Provence, Côte d'Azur. On est là surtout pour apporter des informations que les gens ne connaissent pas. Et surtout pour être présent aussi régulièrement à chaque cérémonie nationale, le jour de la déportation, la journée de la déportation. Cette année, c'était le 24 avril. L'année prochaine, on sera naturellement encore présent sur l'ensemble des délégations. Entre autres, à Nancy, on y est depuis plusieurs années. Et l'année prochaine, on espère aller aussi sur Metz.
Et donc, les oubliés de la mémoire, ce sont bien les déportés. Alors, triangle rose, triangle noir, et ceux qui ne sont pas connus avec ce signe distinctif, comme aussi les homosexuels juifs, tziganes, qui avaient d'autres étoiles et d'autres triangles. C'est bien ça.
Oui, tout à fait. Thierry, pourquoi t'es-tu engagé personnellement dans cette association ? Tout simplement, donc plus ou moins être militant et surtout avoir connu des gens, des juifs déjà, qui ont été déportés. Où j'ai une amie qui est sur Paris, qui a 80 et quelques années, 90 ans on va dire, qui est blanche, qui m'a un petit peu remonté les différentes informations. Elle a eu la chance, elle, de revenir. J'ai eu aussi comme amie Charlotte, qui est sur Nancy. Elle a eu de la chance de ne pas être du tout déportée, mais d'être cachée pendant la guerre de 40. Je me suis dit, il faudrait peut-être à un moment donné aussi que des gens, des homosexuels, parlent aussi des personnes qui ont été déportées pour motifs homosexuels.
Jean-Luc, toi, pourquoi t'es-tu engagé dans les oubliés de la mémoire ?
C'est une longue histoire, disons. Il y a déjà le fait que je sois de Mulhouse, et Mulhouse est une ville qui est quand même assez intimement liée avec la destinée de Pierre Zéhl. Ouais. Et lorsque, à l'époque où j'avais des responsabilités associatives au niveau LGBT, à l'époque où s'était posé la question de quoi faire par rapport à cette mémoire spécifiquement autour de Pierre Zéhl, de fil en aiguille, lorsque je me suis renseigné, c'est comme ça que je suis arrivé à l'association Les Oubliés de la Mémoire, qui à l'époque, donc on parle de fin 2007, était en passe d'obtenir qu'une rue de Toulouse porte son nom. Toulouse parce que c'est là qu'il a passé les 40 dernières années de sa vie. Et donc, de fil en aiguille, je me suis impliqué donc, et on m'a très vite proposé de devenir le délégué en Alsace, essentiellement autour de ce travail sur Pierre Zéhl à Mulhouse. Et l'autre aspect, c'était également la plaque mémorielle à l'ancien camp du Struthof.
Le camp du Struthof, tout à fait.
Ça fait également partie des attributions de l'association que d'inscrire cette mémoire dans la pierre, dans le patrimoine civique, en plus de la solidarité mémorielle, de la présence aux cérémonies. Et puis l'autre aspect du travail de l'association, c'est évidemment aussi l'aspect éducation par le biais d'une exposition itinérante et puis des recherches qui se poursuivent particulièrement sur les Français qui ont été affectés par le système concentrationnaire pour justement l'aspect de l'homosexualité ou qui ont été poursuivis par le nazisme pour cette raison, c'est-à-dire principalement sous forme de peine de prison.
Oui, et rappelons quand même que Pierre Zéhl est le premier triangle rose français à avoir témoigné, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Pierre Zéhl, déporté homosexuel chez Kalman Levy. Il a commencé à parler en 1982, il est décédé il y a quelques années, et il a beaucoup aussi apporté à ce devoir de mémoire sur la déportation pour cause d'homosexualité.
Avec juste une petite précision, oui. Que Pierre Zéhl n'a pas porté le triangle rose, mais qu'il est assimilé à un déporté politique et la raison de sa déportation étant effectivement la répression de l'homosexualité.
Thierry, le pendant du délégué régional, c'est aussi le porte-drapeau qui a été obtenu cette année pour la Lorraine, qui est Delphine Ravizier-Girard. Alors, peux-tu nous expliquer en deux mots à quoi sert ce porte-drapeau ?
Déjà, surtout de la visibilité, ça c'est important, vis-à-vis du public, vis-à-vis des scolaires. Puisqu'on a vu tout à l'heure dans votre reportage bon, les jeunes, quand je dis jeunes, parce que je suis jeune aussi, malgré mes quelques années, mes 46 ans, on s'aperçoit quand même que le public connaît peu ou pas du tout la déportation pour homosexuels. Et le porte-drapeau permet, lors de cérémonies nationaux...
Tout à fait officielles,
puisque sur Nancy, en préfecture, en Meurthe-et-Moselle, on nous a complètement intégrés avec Delphine pour le porte-drapeau.
Et avec toutes les autres associations d'anciens combattants et de déportés.
Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait, déjà d'écoute, d'explications. Ça a été pas toujours facile. On sait très bien qu'il y a encore énormément de travail à faire, que ce soit en Moselle, en Meuse, dans les Vosges. Alors, je parle de la région.
Oui, parce de la région Lorraine, mais je crois que c'est partout en France.
Mais hein. c'est pas partout pareil. Mais il y a quand même effectivement beaucoup de travail. Et le fait d'avoir ce porte-drapeau, eh ben déjà, ça, c'est, comment pourrais-je dire, c'est un étendard. C'est dire, voilà, on est là. On est là pour ceux qui sont disparus. Et on est là pour ceux qui sont encore présents et qui n'osent pas de franchir le pas.
Alors, en dehors du porte-drapeau et de notre présence, enfin je dis note pour ceux qui font partie des associations hein, LGBT et autres, Jean-Luc, toi tu as apporté aussi une pierre à ce devoir de mémoire, c'est le livre de Rudolf Brasda. Alors comment as-tu rencontré Rudolf et tu as décidé de l'aider à écrire son témoignage ?
Alors ça s'est fait de façon très fortuite puisque en 2008, lorsque je m'implique dans l'association, tout le monde, et pas juste en France, est parti du principe qu'il n'existe plus de survivants de cette déportation-là. Pierre Zell étant décédé en 2005, je crois qu'il y avait peut-être encore à l'époque une autre personne qui avait fait de la prison en Allemagne. Mais donc, on part du principe qu'il n'y a plus de témoins oculaires de la période. Et c'est là que, contre toute attente, on entend soudainement parler de Rudolf Brasda, qui émerge de l'anonymat. Et il se trouve que Rudolf, habitant en Alsace, près de Mulhouse, je me rends compte que le dernier survivant de cette déportation assez mal connue habite à 25 km de chez moi. Donc, à l'époque, il était encore dans l'annuaire, je lui ai écrit, et puis on s'est rencontrés une première fois chez lui, donc c'était en juillet 2008. Et puis, très vite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que son histoire, elle n'était consignée nulle part. Oui. Il ne l'avait pas encore dévoilée, et à l'époque, il avait 95 ans. Et même s'il était en grande forme, on se dit, mais il est urgent de recueillir son témoignage au plus vite. Donc, j'ai commencé d'abord par des interviews audio, simplement en enregistrant... venant avec ma liste de questions et en enregistrant ses réponses. Et puis très vite, on se rend compte que bon, mais il ne faut pas se contenter simplement du verbatim d'une personne, mais il faut essayer de replacer ça dans son contexte, de faire les vérifications si on peut, à base d'archives, etc. Et c'est là que le travail a vraiment commencé. Et en parallèle... Rudolf était un vieux monsieur qui était encore très, très autonome et très indépendant, sauf pour l'aspect administratif et des choses comme ça, ou bien quand il s'agissait d'aller faire des courses en Allemagne. Donc très vite, on a dépassé le cadre d'une relation, on va dire, chercheur, sujet d'études. Et donc il y a des liens d'amitié qui se sont tissés, qui allaient au-delà de l'aspect purement études historiques.
Et justement, Jean-Luc, comment as-tu vécu ces dernières années de la vie de Rudolf alors qu'il était âgé ?
Mais il faut dire que Rudolf était quand même quelqu'un d'assez facile à vivre, parce que contre toute attente, c'était quand même quelqu'un de très joyeux, de vraiment très, très heureux de vivre. Et quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche non plus, donc qui appelait un chien un chat. Et donc, de ce côté-là, c'était... D'un côté, on se dit, on côtoie quelque part une page d'histoire, mais en même temps, c'est un vieux papy bien sympathique. Et puis, donc c'était, on va dire que c'était pas une relation difficile, d'autant que bon, Rudolf parlait quand même relativement aisément de son expérience concentrationnaire, ce qui peut surprendre, mais quelque part, il avait, ou en tout cas, il donnait l'impression d'avoir fait le pas ou avoir mis tout ça derrière lui comme un mauvais souvenir, même si aussi ces derniers mois, j'ai remarqué quand même que bon, son passé refaisait
surface.
Un petit peu surface, hein, des épisodes douloureux, enfin qui ne l'ont jamais véritablement quitté. Hein. Rudolf était quelqu'un de très très tourmenté la nuit, et même de façon générale, quand j'arrivais chez lui et qu'il était un peu assoupi, je savais que pour le réveiller, la meilleure méthode était de l'appeler sur son téléphone fixe, parce que le téléphone était un son qui n'était pas a priori quelque chose de menaçant,
agressif.
Alors que si on le touchait pour le sortir un peu de son sommeil, là il sursautait toujours. Et je pense que ce sont des choses qui sont ancrées et qui remontent encore à cette période de sa vie.
Alors ce qu'on peut dire, c'est, on en a parlé, Rudolf s'est endormi, et il est parti rejoindre un ailleurs qu'on lui souhaite aussi bon que certaines périodes de sa vie, mais il s'est endormi calmement un matin, le 3 août au matin. Thierry, il va y avoir, en dehors de cette émission et d'un certain nombre d'actions, un hommage national consacré à Rudolf.
Oui, effectivement. Alors, il y a cet hommage national, en fin de compte, cérémonie civile de souvenir, se fera le mercredi 28 septembre à 17h en l'église Saint-Roch à Paris, la chapelle des déportés.
Voilà, qui abrite la chapelle des déportés, et il y aura une personnalité représentant l'État français.
Oui, alors il y aura Marc Laffineur, qui est secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense, des anciens combattants, qui sera donc présent. Il y aura aussi, naturellement, tous les groupes, en fin de compte, qui voilà. Représentent...
Les associations LGBT, mais aussi certainement aussi nos amis... des associations d'anciens combattants et de déportés. Là aussi, c'est un hommage à...
C'est un hommage national, il ne faut pas oublier.
Tout à fait.
Jean-Luc, que vas-tu faire personnellement et avec l'association Les Oubliés de la Mémoire pour perpétuer la mémoire de Rudolf ?
Bien, il y a toujours un petit peu des recherches qui se poursuivent autour de sa personne ou les gens qui l'ont côtoyé. Mmh. Là, ces derniers temps, je suis... tombé aussi à son domicile sur des documents qui concernaient peut-être plus son compagnon. Donc il y a cet aspect-là, mais bon, maintenant, il n'y a plus vraiment possibilité d'échanger avec Rudolf sur certains éléments ou sur certains documents qui feraient surface.
Bien sûr.
Par contre, au niveau français, l'association... maintenant s'oriente aussi vers une recherche accrue sur les personnes qui ont été déportées ou poursuivies par le régime nazi. Quand je dis les personnes, je parle des Français. Mmh. Et là, il y a encore énormément à trouver et de l'histoire à écrire, c'est-à-dire faire parler les archives. Alors bien sûr, ces personnes ne sont plus là, mais dans la mesure où leur vie ont laissé des traces dans les archives, il y a au moins cet aspect-là à exploiter. Et je pense que c'est un travail de longue haleine qui prendra longtemps et qui, bon, ensuite, ce sera une question de comment l'exploiter en fonction des éléments qu'on aura là. Mais c'est-à-dire que la recherche au niveau français a encore...
beaucoup de choses. Eh bien, écoute, Jean-Luc, on te souhaite bon courage et on sera toujours à tes côtés pour ces recherches et aussi pour en parler. On te remercie beaucoup.
Merci, Jean-Luc.
Merci à vous.
Merci, Jean-Luc.
Et Thierry, tu restes avec nous en studio. Nous allons retrouver Rudolf Brasda et Jean-Luc Schwab. Alors Rudolf est aussi un des premiers déportés à aborder la question de la sexualité, alors forcée ou, j'allais dire, consentante dans les camps. Alors pour moi, ce chapitre est hyper important parce que c'est la première fois que je lis ce genre de témoignage. On a l'impression qu'il l'a, avec plein de guillemets, plutôt bien vécu. Est-ce que c'est le cas ?
C'est le fait effectivement que la sexualité apparaisse dans le livre est plus un choix que j'ai fait, ce qui n'était pas nécessairement quelque chose que lui tenait nécessairement à aborder. Mais moi, je pensais que c'était important de le faire parce que On a un gros problème de perception de ce côté-là. On l'a vu notamment par rapport à l'obtention de la plaque commémorative au Struthof. Une des résistances sur lesquelles on s'est heurté, c'était justement le fait que il y avait cette confusion qui était faite entre homosexualité comme motif de déportation et homosexualité comme pratique dans un univers carcéral, qu'on trouve encore à l'heure actuelle.
De sexualité de substitution, quoi.
Voilà. Et sachant aussi que lorsqu'elle intervenait dans les camps, la plupart du temps, elle était subie. C'est-à-dire donc des prisonniers qui avaient une place un peu plus élevée dans la hiérarchie carcérale pouvaient imposer leur volonté sexuelle à des inférieurs. Et pour ces personnes-là, qui ont donc dû subir dans leur chair des viols ou des pratiques qui n'étaient pas intentionnelles, à qui on l'a imposé, donc fatalement pour ces gens-là, rappeler les victimes homosexuelles du nazisme ou ceux qui ont été déportés pour homosexualité, il y a cet amalgame qui est fait entre ça et ce qu'ils ont dû vivre dans les camps, souvent d'ailleurs de la part de personnes qui n'étaient pas, on va dire, fondamentalement homosexuelles dans un cadre de vie habituel. Donc, la raison pour laquelle cette thématique est abordée dans le livre, c'est aussi un petit peu pour... si pas remettre les pendules à l'heure, mais essayer un traitement un petit peu objectif. Alors, je vais lui poser la question maintenant, comment lui a vécu sa sexualité ou les pratiques homosexuelles dans les camps, même si, effectivement, votre impression est assez juste qu'il n'a pas trop eu à en souffrir.
Je weiß nicht, die Sexualität war...
Alors, il est vrai que à l'intérieur des camps, les pratiques homosexuelles étaient officiellement interdites par le règlement des camps. Ceci étant, l'expérience que Rudolf en a eue, c'est que effectivement, les pratiques sexuelles entre hommes étaient courantes au camp, soit de façon consentie ou justement des prisonniers un peu plus élevés dans la hiérarchie carcérale qui s'entouraient d'une petite cour ou qui avaient leur mignon attitré. C'était donc, semble-t-il, pour les personnes qui le pouvait, sous-entendu celle dont la libido était encore présente, c'est-à-dire donc qui n'était pas encore quasiment détruit ou anéanti par le travail forcé. Donc pour ces personnes, si la volonté était là, la possibilité existait aussi de la satisfaire avec, pour les personnes ou les détenus dans une position un petit peu plus élevée dans la hiérarchie prisonnière, la possibilité peut-être d'assouvir ces pulsions plus facilement. C'était donc présent et connu, accepté quasiment, mais cela devait se faire donc justement dans la discrétion parce que c'était aussi un motif de punition si jamais ça venait aux oreilles de plus haut dans la hiérarchie.
Et avant l'invité suivant, le groupe de rap La Nébuleuse, Triangle Rose.
L'amour a été jugé par des monstres immatures. Crime contre nature, c'est pas des contes ni de la littérature. Mais parfois, aimer ça tue, mal vu, ça fait longtemps que ça dure. Les armures se fissurent et les plus durs saturent. Coupable, être avec un garçon, pour eux c'est pas bon. C'est des mauvaises façons, entassés dans les wagons. Le cœur un chardon, commandement des pardons. Direction la souffrance, les expériences, la castration. Le travail dans les champs, l'humain est bête et méchant, tu l'as compris, au milieu des camps, tu es torturé, violé, pour avoir aimé, pour avoir aimé, pour avoir aimé. un plein désespoir. Effacer l'histoire, tu n'as pas assez brillé parmi les étoiles, alors il faudra le crier sur tous les toits pour qu'on ne t'oublie pas. Le triangle rose, un plein désespoir. Effacer l'histoire, tu n'as pas assez brillé parmi les étoiles, alors il faudra le crier sur tous les toits pour qu'on ne t'oublie pas. Le triangle rose. Atroce, triangle sur le torse, au milieu des bêtes féroces, la souffrance, les pulsions, la violence et les tensions, l'errance et la détention en camp de concentration. Le danger, c'est d'oublier que peu de choses ont changé, peu de commémoration, trop de discrimination. Effacer l'histoire, c'est effacer l'espoir. Attention, on a tous un devoir de mémoire pour la survie. Combattre la négation, c'est combattre l'homophobie. Quelques pages en hommage à ceux tués, torturés, violés pour avoir aimé, pour avoir aimé, pour avoir aimé. En plein désespoir, effacer l'histoire, tu n'as pas assez brillé parmi les étoiles, alors il faudra le crier sur tous les toits pour qu'on ne t'oublie pas. Le triangle rose. En plein désespoir, effacer l'histoire, tu n'as pas assez brillé parmi les étoiles, alors il faudra le crier sur tous les toits pour qu'on ne t'oublie pas. Le triangle rose.
Et on se retrouve autour de la table avec Thierry Rago, des Oubliés de la Mémoire, notre vice-président Didier Rousset, Julien, et au téléphone l'historien Michael Bertrand. Bonsoir Michael.
Bonsoir Daniel.
Alors vous êtes l'auteur, Michael, donc vous êtes historien et vous êtes l'auteur d'un très très gros ouvrage qui s'appelle « La déportation pour motif d'homosexualité en France » aux éditions Mémoire Active. C'est bien ça, j'imagine.
C'est un ouvrage qui est sorti donc en début d'année.
Alors, Michael, on va essayer de revenir aussi à l'histoire et pour essayer de faire passer au maximum de personnes qui nous écoutent. Ça va paraître bizarre, mais Berlin, avant 1933, j'allais dire, c'était le San Francisco de l'Europe.
Tout à fait, effectivement. Berlin, dans les années 20 et les années 30... c'est une société très très ouverte, une société dans laquelle on retrouve plusieurs bars, plusieurs balles à l'époque, homosexuels, où on trouve des associations de sociabilité, mais également des associations de défense des droits des homosexuels, et on retient généralement la plus célèbre d'entre elles, l'association de Magnus Hirschfeld, qui depuis la fin du 19e siècle se battait continuellement pour qu'une disposition dans le code législatif allemand disparaisse, c'est le fameux paragraphe 175 qui permettait de condamner les pratiques homosexuelles.
Michael, bonsoir. Venons-en au système concentrationnaire. Il existait plusieurs triangles, notamment le triangle rose, on l'a dit, noir aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la signification de ces triangles ?
Alors, en fait,
de l'ensemble, j'allais dire, de la planification nazie au niveau de ces codes.
Voilà.
En fait, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de camps de concentration, quand on parle des déportés, on pense tout de suite au fameux tableau des triangles. C'est d'ailleurs la première chose qu'on apprend aux collégiens puis aux lycéens qui abordent la Seconde Guerre mondiale et le système concentrationnaire. Il faut savoir qu'en fait, tout ça est aujourd'hui bien contextualisé, bien catégorisé, peut-être en fait un peu trop. Peut-être qu'en fait aujourd'hui, parce qu'on a ce besoin de médiatisation et on a besoin de l'expliquer au maximum, on l'a beaucoup plus simplifié que ce qu'il n'était à l'époque. C'est-à-dire que aujourd'hui, on considère donc que tous les homosexuels portaient un triangle rose, en tout cas tous ceux qui étaient déportés pour motif d'homosexualité, que les communistes et les politiques portaient un triangle rouge. Dans les faits, on s'aperçoit de plus en plus, quand on travaille au cas par cas, sur les témoignages et sur les archives, qu'une même personne pouvait parfois porter un triangle rose, puis porter une étoile, puis porter un triangle noir, qu'en passant d'un camp à un autre, il pouvait y avoir parfois quelques changements. Et j'en veux pour preuve l'un des témoignages les plus célèbres en France, celui de Pierre Zell, qui n'a jamais porté de triangle rose. Pierre Zell, donc tout à l'heure, votre intervenant, Jean-Luc Schwab, nous disait qu'il nous a sous-entendu qu'il y avait une question sur Pierre Zell. Il est vrai que Pierre Zell a porté une barrette bleue. Et non pas le triangle rose, et malgré tout, lui est persuadé d'avoir été déporté pour motif d'homosexualité.
Alors, Michael, est-ce que vous pouvez, là aussi, en termes d'histoire, nous rappeler pourquoi, dès l'arrivée de Hitler, de façon démocratique, je le rappelle, au pouvoir en 1933, les SA, puis les SS, qui ont... j'allais dire, là aussi, combattu les homosexuels dans les SA, ont-ils persécuté les homosexuels sur ce point-là?
Sur ce point-là, en fait, les SA et les SS ne sont pas passés immédiatement dans la persécution des homosexuels. On retrouve la première mention des homosexuels dans les textes idéologiques nazis dès les années 20. Qu'est-ce qu'on reproche en fait aux homosexuels? On leur reproche tout simplement de ne pas participer à la natalité du pays et de ne pas entretenir l'image idéale type de la famille reproduite, etc. Donc en fait, ce qu'on leur reproche, ça n'est certainement pas une attitude, ça n'est certainement pas une identité, comme aujourd'hui on peut le retrouver plus généralement dans l'homophobie contemporaine. Ce qu'on leur reproche à ce moment-là, c'est surtout ce problème de natalité, sachant qu'on est dans l'entre-deux-guerres à cette période-là, et qu'on connaît le creux de la vague dans la natalité à la suite de la Première Guerre mondiale, et pour les nazis, c'est absolument inadmissible, mais on retrouve également ces arguments en France. Dans beaucoup de pays européens à cette époque-là, on commence à se rendre compte qu'on a un creux en termes de croissance démographique qui est dû au nombre de morts de la Première Guerre mondiale, et on commence donc à se tourner contre les avortements et contre les homosexuels qui, selon eux, nuisent à la natalité du pays.
Depuis quand, Michael, des historiens se sont-ils intéressés à cette question et pourquoi ?
Depuis quand? C'est une question un peu compliquée. Beaucoup d'historiens se sont intéressés à la question à l'échelle mondiale.
Mais au niveau français, vous dites vous-même sur votre blog que c'est plutôt à partir de 2007.
Alors un tout petit peu avant, puisqu'on a quand même les travaux de Florence Tamagne, mais qui s'arrêtent en 1939. Donc Florence Tamagne, sa thèse qui a été soutenue à la fin des années 90. Et ensuite, effectivement, il y a eu le creux d'une vague, encore une fois. Disons qu'on a été poussé. Alors quand je dis on a plusieurs collègues qui sont intéressés à la question, essentiellement par des revendications militantes. Qu'est-ce qui se passe en fait au début des années 2000? On a des militants qui, de plus en plus, sont présents aux cérémonies commémoratives, au dernier dimanche d'avril pour la journée nationale du souvenir de la déportation, et qui demandent à ce que cette déportation pour motif d'homosexualité soit reconnue. L'État a été frileux pendant plusieurs années, les associations d'anciens déportés et résistants ont été frileuses également, et finalement, on a eu une commande officielle qui a été proposé par le gouvernement pour faire des recherches. Les recherches se sont faites d'abord par la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui ont proposé un premier rapport en 2001 et ont proposé de premières conclusions. Une fois que ce rapport a été créé, sorti, publié, le dossier a été à nouveau un petit peu enterré. Personne n'a osé y retoucher jusqu'en 2006-2007, où moi, en tant qu'étudiant en histoire à l'époque, j'avais commencé un travail de master, et à la fin de ce travail de master, j'ai commencé à vouloir organiser un colloque, parce que je me suis aperçu qu'en France, finalement, les conclusions n'étaient pas assez poussées, n'étaient pas assez développées. Et j'ai rencontré différents collègues avec lesquels on s'est mis au travail. Et finalement, on a repoussé un petit peu les conclusions, on a réussi à retrouver de nouvelles choses, mais il faudrait en faire encore davantage.
Alors, il serait peut-être bon, justement, de parler de votre travail, donc sur votre ouvrage « La déportation pour motif d'homosexualité en France ». Quel a été votre angle, j'allais dire, d'attaque d'historien, et quelles ont été les réactions au niveau des associations LGBT?
Alors, l'angle d'attaque, il est résolument français. Je suis parti d'un présupposé assez simple. La déportation pour motif d'homosexualité, on en a parlé en France. Finalement, quand on cherche bien, on en a parlé dans beaucoup d'endroits, des historiens, mais également des journalistes, des associatifs qui ont fait un travail de recherche. Donc on avait des choses, mais on avait des choses qui parfois étaient un petit peu à la limite de la méthodologie, mais c'était déjà ça. Le problème, c'est quand on regardait les conclusions, on s'est très très vite aperçu que tout ce qu'on nous proposait en France, c'était systématiquement la traduction plus ou moins fidèle de travaux allemands, de travaux américains, et finalement rien sur la France. Alors moi je suis parti d'un pari tout simple, c'est de dire mais finalement on n'a rien en France, il va bien falloir se poser la question, donc finalement j'ai mis toute une série de collègues au travail pour essayer de regarder vraiment ce qui se passait dans ce contexte français. Et là les conclusions étaient assez surprenantes, puisque on s'est aperçu qu'il fallait adopter une méthodologie particulière pour la France, séparer des territoires, tout d'abord les territoires annexés, puis les territoires occupés, puis la France dite libre, et ensuite seulement, à partir de cette méthodologie, commencer à regarder si vraiment il y avait eu une déportation pour motif d'homosexualité en France. Et en fait, je dois reconnaître que on a retrouvé donc des cas très très précis.
A priori, 62, c'est ça ?
Voilà, on en est aujourd'hui à un chiffre de 62 qui évolue, bien entendu. Nous, on a acté ce chiffre de 62 au début de l'année 2011, parce qu'il fallait bien qu'on sorte nos conclusions, mais en précisant bien en termes méthodologiques que ce chiffre est amené à évoluer, mais bizarrement à évoluer surtout sur nos connaissances en Allemagne. En ce qui concerne les homosexuels déportés à partir du territoire annexé occupé de la France dite libre, il est peu probable qu'on retrouve beaucoup de témoignages. Par contre, ce qu'on a totalement oublié pendant plusieurs décennies, c'est que plusieurs Français ont soit été envoyés de force en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire, soit sont partis volontairement à l'aventure un peu en Allemagne. Et là, parmi eux, on retrouve des homosexuels qui ont parfois été inquiétés en Allemagne directement et qui ont connu soit un parcours carcéral, soit un parcours concentrationnaire.
Pour conclure, Michael, en fait, tout reste à faire en termes de travaux et d'études, non ?
Tout reste à faire, non, parce que on va rencontrer des limites méthodologiques très très rapidement. Les archives, ont hélas des limites,
celles qui
sur
restent.
Les cas qu'on va pouvoir rencontrer. Par contre, moi ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est de s'intéresser à tous les autres. C'est-à-dire qu'on s'est un peu focalisé sur ces déportés. Finalement, dans les faits, on s'aperçoit que proportionnellement, il y en a toujours trop. Mais ils n'ont pas été tant que ça. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des stratégies pour éviter la déportation.
Oui.
Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de trouver quelles stratégies ils ont mis en place, comment ils ont réussi à se protéger, quelle vie ils ont menée pendant ces 4 années pour pouvoir éviter l'univers concentrationnaire.
Complètement. C'est une piste passionnante et nous sommes de tout cœur avec vous. Je vous remercie, Michael. Bonne continuation.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Et nous allons retrouver pour la troisième et dernière partie Rudolf Brasda.
Rudolf, vous êtes sorti vivant des camps.
Oui, je voulais juste savoir si vous êtes au courant des couleurs de triangles.
Oui, tout à fait.
Das wissen Sie schon.
Justement, une question sur ces triangles. Rudolf a eu la chance d'être sorti vivant de ces camps. Qu'a-t-il ressenti pour les triangles roses qui sont morts ?
Also, ich muss sagen, mein Leben war in der Zeit, wo der Krieg war das Leben in den Konzentrationslagern nicht so sehr schlimm, denn die Gefühle...
Bon, ce n'est pas exactement la réponse à la question, puisqu'il a parlé simplement de la partie, l'évacuation des camps juste avant la libération, lors des marches de la mort. Je pense que c'était aussi dû en partie parce que, selon lui, les gens étaient convoqués sur la place d'appel et parfois par catégorie. Et lorsque l'ordre est arrivé sur les haut-parleurs, tous les homosexuels sur la place d'appel, lui ne s'est pas rendu mais est allé se cacher. Donc, puisqu'il avait la complicité d'un capot qui s'occupait de la porcherie, et lui l'a caché dans les baraquements juste à proximité. Alors, je vais essayer de lui reposer la question différemment. Donc,
Und wie schon gesagt, du hattest das Glück, als Rosa Winkel-Häftling lebendig davon zu kommen.
Na.
Was meinst du oder was denkst du von allen anderen Rosa-Winkel-Trägern, die nicht davon lebendig gekommen sind? Hast du spezielle Gefühle für sie?
Ich bedauere die anderen Häftlinge, alle, die Rosa-Winkel getragen haben. Aber
ja, donc Rudolf éprouve du regret pour les triangles roses qui ne sont pas sortis vivants des camps. Il dit simplement aussi que c'était quelque chose dans, je sais pas, dans l'air du temps, mais voulu par l'époque. De même qu'on avait vu des persécutions ou des répressions d'homosexuels déjà plus tôt dans l'histoire, au Moyen-Âge, et que cela continue aussi à l'heure actuelle, avec des persécutions, des violences, alors que somme toute, les homosexuels sont simplement là, tels qu'ils sont, voulus par la nature, et qu'ils essayent de faire au mieux de leur vie, même si certains sont encore contraints de se cacher, d'utiliser de subterfuges pour se cacher ou pour mener une vie à peu près conventionnelle ou normale. Dans son cas, il est content d'avoir pu vivre sa vie après, comme il l'a entendu, ouvertement et librement. Et il aimerait encore rajouter quelque chose.
Ja, was wolltest du noch sagen?
Das will ich noch den Leuten sagen. Zum Beispiel, wir werden da auf die Welt gesetzt und dann...
Bien, donc Rudolf souhaitait rajouter que, effectivement, l'homosexualité est quelque chose de naturel, même si ce n'est pas quelque chose qui correspond à la norme majoritaire, et que... Il souhaite aussi dire qu'il est possible de vivre sa vie comme les normaux. Alors là, je trouve encore intéressant qu'il utilise le vocable encore de l'époque nazie pour désigner les hétérosexuels par le terme normal ou normaux, mais donc que les homosexuels sont également en mesure de vivre une vie normale, donc comme les autres. En dépit de leurs différences. Il a encore rajouté cette petite anecdote amusante qu'il a bien relatée, c'est quand il était tout jeune, qu'il faisait partie d'un club de gym. Donc les filles à l'époque l'ont un jour pris de côté. Bon, maintenant, on va te déshabiller pour voir si tu es un garçon ou une fille. Puisque peut-être à l'époque, il était peut-être un peu efféminé ou il laissait paraître son côté féminin. Et justement, ça a intrigué beaucoup les filles de savoir ce qu'il était véritablement. Et donc, un petit peu à l'image de cette anecdote, ce qui s'est passé par la suite, c'est aussi un peu beaucoup ça, c'est-à-dire... Peut-être qu'il était, il se faisait remarquer comme n'étant pas dans la norme, mais en dépit de ça, il a pu s'en accommoder et bon, les choses se sont quand même bien passées après coup.
Et puis nous arrivons presque à la fin de l'émission. On ne peut pas faire cette émission sans parler alors d'un cas encore plus inconnu que l'homosexualité masculine. Ce sont le traitement, enfin c'est le traitement des lesbiennes sous le Troisième Reich.
En effet.
Alors Julien, pourquoi sait-on si peu de choses sur les lesbiennes sous le Troisième Reich et donc sous le régime nazi ?
Eh bien, les lesbiennes, tout comme les femmes de manière générale, sont les grands oubliés de l'histoire, si ce ne sont quelques grandes figures. Depuis quelques décennies néanmoins, un intérêt se manifeste pour l'étude des femmes dans l'histoire. En ce qui concerne les lesbiennes de manière plus particulière, ce sont les travaux de l'historienne Claudia Schoppmann qui ont permis de faire connaître leur vie sous le Troisième Reich, ainsi que ceux de la sociologue Ilse Kokula. Avant, on n'en savait pratiquement rien et on ne s'y intéressait pour ainsi dire pas. Alors Claudia Schoppmann utilise le témoignage à défaut de sources écrites pour son étude. On retrouve la même vision d'une époque libre et libérée pour les lesbiennes dans les années 20 en Allemagne et à Berlin notamment, que dans le livre de Jean-Luc Schwab et Rudolf Brasda, Itinéraire d'un triangle rose. Il y a à Berlin de nombreux lieux de sociabilité, des bars, des clubs et une presse destinée aux lesbiennes.
Donc la lesbophobie, mais je rappelle que c'est un terme qui a été créé bien après la Seconde Guerre mondiale, hein, dans les années 60, comme l'homophobie. Donc la lesbophobie est peu présente en Allemagne à cette époque.
Alors il y a une vraie liberté de vie pour les lesbiennes dans les grandes villes et une certaine tolérance de manière générale. Néanmoins, plusieurs fois, le gouvernement allemand a tenté d'inclure les lesbiennes au titre du paragraphe 175 qui pénalise les relations entre hommes, donc déjà en 1909 et sous le régime nazi bien évidemment, mais sans y parvenir.
Et puis est-ce qu'on peut dire finalement pourquoi il n'y a pas eu ces persécutions ?
Alors Edna Castello évoque trois raisons principales. D'une part, la place de la femme qui est exclue des postes politiques et administratifs, donc les femmes sont vues comme peu dangereuses. Ensuite, parce que l'homosexualité féminine n'est pas définie scientifiquement comme contraire à la fondation d'une famille, et donc à la perpétuation de la race, c'est l'obsession hein, des nazis, on l'a dit au cours de l'émission. Cela conforte donc la théorie selon laquelle on pourrait soigner l'homosexualité. Enfin, la dernière raison qu'elle évoque, ce sont que les relations entre femmes sont jugées trop courantes, et donc elles sont plus difficiles à contrôler. Le meilleur moyen de lutter contre elles, c'est donc de les taire, tout simplement.
Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont véritablement échappé à la persécution nazie?
Alors, les lesbiennes, pour beaucoup, y ont échappé, mais à un certain prix, je vais y venir. D'autres, non, bien évidemment. Même si la loi nazie ne pénalise pas à proprement parler l'homosexualité féminine, cela n'a pas empêché des atteintes diverses. Alors, cela commence dès l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. Les bars et la presse lesbiennes sont interdits. Les lesbiennes subissent aussi la discrimination dans leur emploi. Nombre d'entre elles doivent se cacher pour ne pas être licenciées. Certaines se féminisent pour se cacher. D'autres finissent même par se marier pour rentrer dans le rang. On sait que des lesbiennes ont été déportées, bien évidemment, notamment par le témoignage de la militante berlinoise Lotto Hamm. Son témoignage en atteste. Dans certains camps, des blocs sont même réservés aux lesbiennes. C'est le cas de Butzow, par exemple, en Allemagne de l'Est. Les lesbiennes y sont maltraitées, humiliées, et les SS encouragent même les prisonniers à les violer. Et dans le camp de femmes de Ravensbrück, pour prendre un exemple, elles portent le triangle rose, donc comme les hommes, mais la plupart du temps, elles portent le triangle noir, ou plutôt le triangle rouge. En 1942, on crée même des bordels dans les camps de concentration afin d'augmenter l'efficacité des travailleurs forcés et pour lutter aussi contre l'homosexualité masculine, pardon, cette fois. Au bout de 6 mois de bordel, les lesbiennes qui y travaillaient étaient d'ailleurs souvent envoyées dans des camps d'extermination, cette fois.
Alors si on sait qu'il y a le chiffre pour la déportation des homosexuels masculins est entre 10 000 et 15 000 dans les camps de concentration d'extermination, il n'y a pas de chiffre et très peu d'études sur les lesbiennes déportées.
En effet.
Alors vous pourrez retrouver un certain nombre de pistes, de témoignages, de travaux historiques et de films, hein, d'œuvres de cinéma, sur le site des Oubliés de la Mémoire. Alors le site c'est www.devoiretmémoire.org. Thierry Rago, on te remercie d'être venu. Tu as un dernier mot? Qu'as-tu pensé de cette émission?
Bon, j'ai trouvé déjà que c'était une superbe émission. Et surtout, je voudrais dire, il ne faut pas les oublier.
Exactement. Didier, toi qui n'as pas parlé sur
bien,
ce que tu as entendu.
Juste faire un petit aperçu des micro-trottoirs que j'ai eu l'occasion de réaliser.
Alors très rapidement, très rapidement.
J'ai été vraiment surpris de cette méconnaissance au niveau de la France, au niveau des Français. Mmh. J'ai eu droit à un monsieur, déjà d'un certain âge, qui lui ça lui est revenu après, mais il m'a fait cette réflexion. Je crois qu'il y avait plus de choses qui se passaient en Allemagne qu'en France.
Voilà. Oui, et, mais bon, je crois qu'on a apporté aussi une réponse à ces interrogations. On n'aura pas de remerciements spécifiques. Je vais vous demander, avant la fin de l'émission, d'observer, et ce n'est pas radiophonique, 5 minutes de silence pour Rudolf et tous les déportés. Merci. Alors, la prochaine émission, c'est mardi 18 octobre à 17h, une spéciale art, chansons et sketch LGBT. Et puis, nous nous retrouvons lundi prochain aussi pour la première de l'émission Je veux te connaître à 17h. Et on termine sur un texte de Martin Niemöller, qui a été déporté, qui a survécu à Dachau.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. Et ce n'est pas fini, on a aussi ce danger aujourd'hui.